Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous parlions de résurrection de choses matérielles, le chauffage, une chaudière. Et pourtant aujourd'hui, dans l'évangile qui nous est donné, notre Seigneur fait sa première résurrection. Saint Luc développe beaucoup plus que saint Matthieu cet épisode où un chef de synagogue vient chercher le Christ pour sauver sa fille. Ici, saint Matthieu la déclare déjà morte. Et le Christ entrera avec Pierre, Jacques et Jean pour leur montrer sa gloire. Cette gloire dont nous parle saint Paul. Oui, et pourtant saint Paul nous dit bien l'obscurité qui peut habiter notre cœur et qui peut habiter notre monde. Une des raisons pour lesquelles l'humanité actuellement et l'Occident est dans cette apostasie silencieuse ou plus ou moins bruyante de nos jours, c'est en effet par une sorte de détournement de la vie éternelle. Nous nous détournons de l'espérance d'une vie après la mort pour nous plonger dans cette vie terrestre d'une manière trop intense. Mais cela a toujours été vrai. Alors comment nous-mêmes terminer cette année avec les évangiles qui vont être de plus en plus forts pour nous, où le Christ va nous inviter à un examen de notre vie pour notre jugement, un jugement qui est particulier au moment de notre propre mort et qui sera général à la fin des temps, où toutes les vies particulières seront connues de tous. Comment aborder cette résurrection spirituelle que Dieu nous invite à accompagner par la grâce. Tout d'abord, il nous faut nous poser la question des examens de conscience pour notre vie de chaque jour et pas seulement pour une confession. Et ensuite, quels sont les fruits de cet examen de conscience? Tout d'abord, on reproche à la religion justement de faire des complexés ou des frustrés parce qu'il y a des interdits. On ne doit pas trop manger, on ne doit pas se mettre en colère, on ne doit pas être trop sensuel. Et on nous dit depuis des décennies que pendant des générations et des siècles, nous avons fait des personnes frustrées, inquiètes, malheureuses. Les parents ont été trop sévères pendant des siècles. Les prêtres étaient trop sévères et puritains et empoisonnaient notre vie, gâchaient notre vie à nous restreindre et à nous mettre des interdits. La société elle-même était trop rigide et trop stricte. Alors, il n'y aura plus de limites ou de petites limites à notre volonté et à notre liberté. Et pourtant, lorsque Dieu nous demande que notre intelligence puisse éclairer notre volonté et que nous puissions choisir nos paroles et nos gestes au quotidien, que nous puissions dire à un enfant qu'il ne peut désirer ceci ou cela parce que cela va lui faire du mal, de le retirer du caprice. Cela est bien difficile en effet pour un adulte, car il n'y a plus vraiment d'autorité sur un adulte pour limiter ses caprices. La confession consiste à avoir un œil objectif sur notre vie et sur nos choix. Alors, certains trouvent que c'est un exercice trop humiliant et qu'ils n'ont pas grand-chose à dire parce qu'ils n'ont pas tué et pas volé. Mais l'examen de conscience, justement, n'est pas seulement pour la confession. Reconnaître ses torts, c'est une libération intérieure. Essayez d'avoir la lumière de l'Esprit-Saint pour reconnaître ce que nous avons fait ou ce que nous avons omis pour la paix de notre famille, pour la paix de notre vie, pour notre propre santé. Lorsque nous sommes inquiets de nos jours devant les addictions à Internet, de ces heures passées par des enfants, par des adolescents, par des jeunes gens et par des moins jeunes, qui par curiosité, qui par délassement, passent des heures entières et se fatiguent et abîment leur volonté, abîment leur générosité aussi. Tout cela, ce n'est pas pour faire honte, ce n'est pas pour frustrer, c'est pour que nous soyons plus libres dans la vérité et dans la justice. Parce que Dieu nous a créés pour vivre ensemble et pour nous aider les uns les autres. Le Christ est venu pour nous dire cela, pour nous soigner, pour nous aider. Comme il guérit cette femme qui avait un flux de sang, comme il ressuscite cette jeune fille de 12 ans, comme il ressuscite ce jeune homme de 18 ans, comme il ressuscite son ami Lazare de 50 ans. Il est là pour nous sauver. Lorsque nous rentrons en confession, quels sont ses fruits? Eh bien, la véritable liberté, en effet. La prière la plus importante pour la confession, c'est la prière à l'Esprit-Saint. Une prière à l'Esprit-Saint qui demande la lumière, un regard simple sur notre vie, de ne pas avoir peur d'être humilié en parlant à un inconnu, en parlant à un serviteur de Dieu. Je vous dis ceci, mais je me confesse surtout à des prêtres âgés. Pourquoi? Eh bien, peut-être par honte, en effet. J'ai du mal à me confesser à des jeunes prêtres. J'ai peur de leur regard, de ce qu'ils vont penser sur ce que je vais dire. Un prêtre âgé a l'expérience, a une bonté paternelle particulière. Et pourtant, voyez-vous, je ne fais pas assez confiance en Dieu, en mon Sauveur, car il y a une providence dans la confession, il y a une confiance. Même si le confesseur est de mauvaise humeur, ou est cassant, ou est sec, ou vous blesse, cet exercice tout particulier de la confession est un grand rendez-vous de simplicité. Et c'est une très grande libération de se dire que nous ne parlons pas vraiment au prêtre, mais que nous parlons à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on entre au confessionnal, on ne dit pas « Bénissez-moi, monsieur l'abbé » ou on ne dit pas « Pardonnez-moi, mon père » ou « Monsieur l'abbé » ou « Monsieur le chanoine » ou « Monseigneur » ou « Très Saint-Père » si vous vous confessez au pape. Non. Dans le rite de la confession, on a toujours dit « Bénissez-moi, mon Père ». « Pardonnez-moi, mon Père », non, parce que c'est Dieu qui pardonne. Mais alors vous me direz, pourquoi appeler le prêtre « mon Père » puisque c'est le titre particulier de la miséricorde de Dieu? Eh bien, c'est mélangé. On demande au prêtre de nous bénir, parce que ce n'est pas lui qui nous pardonne, mais il est quand même un reflet de la bonté paternelle, donc on l'appelle mon père. Et en effet, c'est cette bonté paternelle du Tout-Puissant qui nous écoute. Et c'est un mélange à nouveau. C'est le Père, c'est le Christ. Il en est qui se confesse plus particulièrement en se confessant à Jésus, leur sauveur, leur frère, qui s'est fait homme. Tout cela est divers et varié, mais l'intention de Dieu, c'est que nous soyons libres, libérés. Pour terminer, je vous dirais que certains disent que la confession n'a existé qu'à partir du Moyen-Âge, comme si on ne se confiait pas à un prêtre dès le début, à un apôtre, à un évêque même, car il y avait des évêques dans toutes les petites villes. Saint Paul aujourd'hui nous donne le nom de Clément. Il connaît Clément. Vous savez que Clément a été un des successeurs immédiats de Saint Pierre à Rome, Saint Clément. Et nous avons une lettre de lui. Oui, nous avons un grand chemin à faire pour grandir dans notre simplicité d'âme et dans notre prière confiante en Dieu. Car ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est pour nous libérer du passé qu'il nous demande de reconnaître nos torts, pour que nous soyons disponibles pour le futur. En ce mois du rosaire, demandons à la Vierge Marie qu'elle prie pour nous. Donnons-lui des « Je vous salue Marie » pour qu'elle les présente à son Fils et qu'elle obtienne de son Fils toujours plus de grâce pour que nous soyons vivants. Ou pas forcément en excellente santé, même si les miracles sont importants. Mais les miracles physiques et corporels ne sont pas nombreux. Ils soutiennent notre espérance, mais ils ne sont pas nombreux. Le Seigneur nous demande de prier ses amis, de prier sa mère, pour que nous soyons dans une véritable famille, pour que nous ayons Dieu comme Père et que nous soyons frères et sœurs d'un même Fils. Voilà qui est pour nous dans ce mois d'octobre, dans ce mois de novembre et dans cette année qui va s'écouler, une grâce particulière. Le 20 novembre, les indulgences s'arrêteront et nous gagnerons ces indulgences par des œuvres comme visiter des malades, lire les évangiles, prier le chapelet à plusieurs. Ce sont les mêmes indulgences qu'un jubilé. Elles doivent être simples, ces œuvres, ces actes extérieurs que l'on pose en vérité pour demander à Dieu de vivre sous son regard et de vivre en paix les uns avec les autres, en faisant des efforts par rapport aux 7 péchés capitaux, par rapport aux 8 béatitudes et par rapport aux 10 commandements. Tout cela, non pas pour avoir peur et être puritain, mais pour être des instruments de paix et de chasteté authentique, dans le mariage comme dans le célibat. Un exemple pour ce monde et pour apporter à ce monde la grâce particulière du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.